Hélène Romano est avec nous. Bonsoir, vous êtes docteur en psychopathologie. Vous travaillez notamment auprès du ministère de l'Éducation nationale sur des questions relatives, par exemple, au harcèlement scolaire. Hélène Romano, merci donc d'être avec nous. Je voudrais savoir d'abord comment peuvent réagir. On sait qu'il n'y aura pas classe, évidemment, demain dans ce collège de Sanary-sur-Mer. On imagine évidemment la communauté éducative sous le choc, mais les enfants également, notamment ceux qui ont assisté à cet acte de ce collégien de troisième dans sa classe.
Oui, c'est vraiment la priorité lorsque l'on intervient dans ce type de situation. Ce sont des événements traumatiques. Ils ont eu quelqu'un qui a essayé de tuer leur enseignant, possiblement avec la peur d'être eux-mêmes agressés. Donc, la priorité, ce sont les élèves qui sont témoins, les témoins visuels. On sait que l'impact sensoriel, en plus le sang, c'est quelque chose de très impressionnant. Il y a les cris, il y a le fait de voir le corps de leur enseignante au sol. Il y a toute cette ambiance-là qui peut véritablement marquer l'impact sensoriel et souvent à haut risque de conduire à des troubles post-traumatiques dans le temps. Donc la priorité, ce sont les témoins visuels. En psy d'urgence, on parle d'impliquer, les impliquer directs, vérifier qu'ils n'ont pas de manifestation de troubles qui pourraient les mettre en danger. Au niveau médico-psychologique, on a des situations de stress dépassées, des gens qui restent prostrés, qui vont partir dans tous les sens, qui vont continuer de faire comme si de rien n'était. Ça, c'est des signes d'alerte. Et quand on intervient, l'urgence est de repérer des jeunes ou des adultes qui auraient ce type de manifestation totalement inadaptée pour les protéger, les prendre en charge de façon spécifique. Parce qu'on n'intervient pas de la même façon avec les autres personnes impliquées. Et l'objectif, ce qui est vraiment important de comprendre, parce que souvent, on a cette représentation de « on va les écouter », quitte, on va les forcer à parler. L'intervention médico-psychologique à T0, quand ça vient de se passer, c'est une écoute qu'on qualifie de transitionnelle. On est là pour expliquer les secours, pour protéger bien évidemment ses élèves, pour respecter la personne qui est blessée et respecter son corps, pour préserver la scène qui peut être très impressionnante visuellement de tout impact sensoriel pour les jeunes et puis même pour les adultes de la communauté scolaire. Donc il y a tout ce travail-là, cet accompagnement qui est fait au temps T0 de l'événement, d'une agression par couteau. Malheureusement, il y en a eu plusieurs ces derniers mois et on commence, on le savait déjà, mais là, on est encore plus précis dans les prises en charge. Donc ça, c'est la priorité. On est présent, on écoute les jeunes, on les informe. Pour ceux qui veulent parler, eh ben, on est là, on les écoute, mais on ne les force pas à parler. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on entend certaines fois, voilà, il y a des cellules d'écoute qui sont mises en place comme si les enfants étaient obligés de parler. Certainement que non. Et dans le temps, dans les jours qui suivent, on va mettre en place des dispositifs qui seront différents selon l'évolution. Ça ne sera pas tout à fait les mêmes si l'enseignante malheureusement décède de ses blessures. Ça ne sera pas les mêmes si l'enseignante, je l'espère, parvient à faire face et à ne pas être gravement blessée, trop durement hospitalisée. Toutes ces conséquences-là sont importantes dans la vie d'un établissement scolaire.
Et on imagine aussi, Hélène Romano, que tout le monde n'est pas égal face à ce type d'événement. D'abord, comment est-ce qu'on repère des élèves éventuellement plus fragiles et quels sont les risques à plus ou moins long terme pour leur santé mentale?
Alors, le repérage va se faire souvent auprès des jeunes qui ont vu, qui étaient présents, ou des adultes qui étaient présents, et qui peuvent avoir ces réactions totalement inadaptées. Des jeunes qui restent complètement paralysés, qui font rien, des jeunes qui vont demander à aller en cours alors qu'il y a quand même un drame absolu qui s'est passé, ce qu'on appelle une conduite automatique, ou des jeunes qui vont fuir n'importe où, n'importe comment. Là, ça s'est pas passé, mais on a eu des situations qui passent par la fenêtre, ce qu'on appelle la fuite panique. Ça, c'est vraiment le repérage que l'on fait, mais il faut pour ça avoir des intervenants spécialisés. Et on va aussi repérer certaines fois dans les récits, dans les propos, et puis dans les établissements scolaires, les enfants sont connus, les élèves sont connus. On peut savoir des jeunes qui ont un passif avec certaines fois des tentatives de suicide, des idées noires, des troubles très dépressifs. Il y a les jeunes qui étaient peut-être amis proches de l'agresseur qui peuvent se dire « bah j'aurais peut-être pu empêcher, se culpabiliser ». Tout ça, c'est des éléments importants à repérer pour pouvoir prendre en charge charge de façon ajustée. Les interventions médico-psychologiques d'urgence, c'est vraiment des interventions au cas par cas. On essaye souvent de faire des prises en charge par petits groupes parce que chaque groupe de jeunes a une représentation de ce qui s'est passé qui est différente. Il y a ceux qui étaient là, il y a ceux qui connaissent cette enseignante, il y a peut-être des élèves qui connaissent, si elle a des enfants, 60 ans, des petits-enfants, sa famille. Donc ça crée des niveaux d'implication différents qui sont à prendre en considération lorsque l'on va intervenir. Et on sait malheureusement avec de nombreuses études que les jeunes au niveau de leur santé mentale présentent pour un certain nombre des troubles anxieux, des troubles dépressifs, en tout cas plus que sur les générations précédentes. Donc quand il y a un passage à l'acte comme ça, ça fait aussi partie des risques de réactivation d'angoisse, en particulier en milieu scolaire qui devrait être préservé de ce type de violence.
Il faut aussi peut-être parler du rôle des parents auprès de ces enfants. Quels sont les signaux qui doivent peut-être alerter les parents et que peuvent-ils faire aussi pour entourer au mieux leurs enfants quand il s'est passé ce genre de drame ?
C'est une question très importante parce que les parents, on leur dit de faire attention, mais on leur dit pas forcément comment. Ce qui peut les aider, c'est quelque chose qui est en rupture comportementale avec l'habitude. Un enfant qui pouvait être très calme, qui tout d'un coup devient très agressif avec les autres, avec lui-même, très turbulent alors qu'auparavant il était plutôt posé, ou à l'inverse, un jeune qui était un petit peu dans tous les sens et qui tout d'un coup devient hyper compliant et qui change brutalement. Ça, souvent, ce changement, les parents vont le repérer. Alors, ils repèrent plus les troubles qu'on appelle externalisés, où le jeune tout d'un coup est extrêmement bruyant dans sa manifestation de détresse psychique, et on repère moins ceux qui vont s'isoler, entre autres derrière les jeux vidéo, entre autres via des conduites addictives certaines fois qu'on va pas repérer tout de suite et qui vont certaines fois plus aller en cours. Tous ces troubles-là internalisés, on les repère souvent moins. Mais les parents ont aussi la possibilité, et c'est essentiel, de pas rester seuls dans la communauté scolaire. Il y a des professionnels de santé scolaire. Alors là, c'est aussi un enjeu fondamental. Il faudrait enfin que les établissements scolaires puissent avoir chacun un médecin, chacun une infirmière, chacun un psychologue, chacun une assistante sociale, alors qu'actuellement, il y en a un pour 5-6 établissements. Mmh. Ça n'est pas possible dans le contexte actuel, pour pouvoir permettre aux parents, lorsqu'ils ont des doutes, d'être aidés, d'être soutenus. Et puis, si leur enfant, leur ado, a l'air de ne rien manifester face à un drame pareil, ça doit aussi les alerter. Donc, pouvoir échanger avec d'autres adultes, c'est ça qui va permettre aux parents de faire face aussi à leur propre inquiétude, à leur propre angoisse. Et un mot rapidement, je pense à tous les parents en France qui ont des enfants hospitalisés, qui entendent ça, qui voient de telles informations, à ces adolescents qui sont dans d'autres collèges et qui apprennent qu'un adolescent a poignardé un enseignant. Ça peut être une source d'anxiété majeure et c'est important que les parents puissent s'autoriser à en parler avec leur enfant. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu penses? Et qu'est-ce que tu pourrais faire par rapport à tes angoisses? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble par rapport à tes angoisses? C'est tout un tissage communautaire entre les parents, la communauté scolaire, les pédiatres, les médecins généralistes, l'ensemble des adultes qui doivent être là pour porter, pour soutenir les enfants de cet établissement, mais également des autres établissements scolaires.
Toute dernière question, Hélène Romano. On n'a pas encore évidemment tous les détails de l'enquête sur les motivations évidemment de cet adolescent de 14 ans qui a poignardé très grièvement donc cette enseignante. Mais qu'est-ce qui peut pousser, alors que selon les premiers éléments de l'enquête, il est inconnu de la justice. Il a, selon le procureur, tout de même des problèmes familiaux. Mais qu'est-ce qui peut pousser un adolescent de 14 ans à commettre un acte pareil?
Alors, je ne parlerai pas de cette situation en effet, parce qu'on n'a pas tous les éléments.
Exactement.
Dans des passages extrêmement violents, il peut y avoir un trouble psychiatrique qui peut conduire un jeune à ne plus du tout être dans la réalité et à agir quelque chose d'absolument insensé, inintelligible, dans un accès de délire, pour prendre un terme un peu plus posé. On peut avoir des jeunes qui vont être dans un court-circuitage de ce qu'on appelle du relationnel, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus la capacité d'argumenter, ils n'ont pas la capacité de supporter la frustration d'un non, d'un enseignant ou d'un parent, certaines fois, et ils vont être dans l'agir, ils vont passer à l'acte. Et quand ils ont un mode opératoire, là c'est un couteau, mais ça aurait pu être des ciseaux, on a eu des enseignants qui ont été blessés par des ciseaux, ils vont agir la violence. L'agir violent témoigne un court-circuitage dans la pensée. Quand on arrive à penser, quand on arrive à élaborer, on n'est pas dans l'agir. Donc ça, c'est une première explication, qu'il y a un court-circuitage pour différentes raisons, mais qui fait que cet adolescent-là, à ce moment-là, probablement n'a pas réussi à raisonner ce qui lui était dit, la situation qu'il vivait. Et l'autre enjeu, et c'est un véritable questionnement, une véritable inquiétude que l'on a auprès des jeunes aujourd'hui, des tout jeunes et des adolescents, c'est que l'usage des réseaux sociaux, mais aussi le fait qu'on ne soit pas toujours présent, ajusté en tant qu'adulte auprès de nos jeunes, pour différentes raisons là aussi, fait que les jeunes n'acquièrent pas l'empathie. L'empathie, c'est le respect de l'autre, l'altérité. Je ne vais pas faire à l'autre quelque chose que je ne veux pas qu'on me fasse. S'il n'y a pas d'empathie, s'il n'y a pas d'attention à l'autre, s'il n'y a pas cette altérité, tous les passages à l'acte sont possibles. Donc, il y a au moins ces deux compréhensions-là, avec tout un enjeu autour de l'environnement de ce jeune. Je voudrais juste préciser, par rapport à ce qui était dit dans l'introduction sur les éléments donnés de ce jeune qui est à une mesure auprès d'un juge des enfants, tous les enfants qui ont des mesures auprès des juges des enfants, tous les enfants qui ont des difficultés familiales ne passent pas à l'acte avec des conduites criminelles comme celle qui a été commise. Donc, il y a aussi une prudence à avoir. C'est souvent plurifactoriel, mais un passage à l'acte de ce type-là vient signifier que l'autre en face de moi, je ne le perçois pas comme un être humain, comme un autre que moi-même. Donc, il n'y a pas d'empathie, il n'y a pas d'altérité. Et je n'ai pas réussi à agir autrement que par un passage à l'acte meurtrier, tentative de d'homicide, d'assassinat, c'est ça qui a été relevé. Je n'ai pas pu faire autrement, je n'ai pas trouvé les mots pour m'exprimer. Donc ça nous interroge aussi sur ce que l'on peut transmettre aux enfants, aux adolescents aujourd'hui, pour qu'il y ait moins d'agir. On a beaucoup d'enfants, d'adolescents agressifs vis-à-vis des autres. Il y en a beaucoup qui sont agressifs vis-à-vis d'eux-mêmes. On a des tentatives de suicide, des suicides chez des jeunes enfants. C'est quelque chose qu'on avait exceptionnellement il y a quelques années. Là, ça n'est plus exceptionnel. Ça doit nous interroger. Il y a une urgence à intervenir, une urgence à mettre les moyens dans les milieux scolaires, en particulier dans le soutien médico-psychosocial aux élèves, pour les professionnels aussi, la médecine du personnel, l'éducation nationale, c'est peau de chagrin. Il y a beaucoup de choses à faire pour prendre en charge l'ensemble de la communauté scolaire et que les établissements puissent retrouver un apaisement, une sérénité.
Merci beaucoup Hélène Romano, docteur en psychopathologie, experte référente auprès du ministère de l'Éducation nationale, notamment sur ces questions de harcèlement scolaire. Je rappelle l'un de vos livres, Consoler nos enfants, publié aux éditions Le Duc.